monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 6 mai 2024. Élection présidentielle au Tchad ce lundi, la première depuis la vague de putsch au Sahel.
Pour la première fois là, on vote, Internet n'est pas coupé. C'est déjà un bon signe. Ceux qui ont eu leur nom inscrit sur la liste électorale, ils vont pouvoir avoir l'occasion, y compris de voter, même s'ils n'ont pas leur carte électeur.
Compte rendu de la journée électorale à N'Djamena à suivre dans la partie magazine. Après les concertations régionales, le Mali a lancé aujourd'hui à Bamako la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, censée se substituer à l'accord d'Alger. Guerre à Gaza, le Hamas annonce avoir accepté l'offre de trêve des médiateurs égyptiens et qataris. Au premier jour de la visite d'État du président chinois en France, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont accepté et ont exhorté Xi Jinping à favoriser un équilibre commercial entre l'Europe et le géant asiatique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Tchad, le vote pour l'élection du nouveau président s'est achevé en fin d'après-midi. Il s'agit d'une présidentielle qui met en scène un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre Succès Masra, ex-opposant rallié à son régime, Jacques Aristide.
L'opposition, violemment réprimée et écartée de la course, a appelé à boycotter le scrutin, joué d'avance pour perpétuer, dit-elle, une dynastie Déby. Des ONG, quant à elles, doutent de la crédibilité du vote. Un électeur a été tué par une balle perdue tirée par un inconnu lors d'une altercation dans un bureau de Mundu, d'après la commission électorale. Pour l'heure, aucun autre incident n'a été signalé. À N'Djamena, la capitale, il est difficile de mesurer l'engouement. S'il se pressait peu à l'ouverture des bureaux de vote à l'aube, les électeurs ont paru plus nombreux en milieu de matinée dans un nombre de bureaux de vote. Mais à la mi-journée, sous une chaleur écrasante, les lieux étaient déserts. Les candidats Déby et Masra, tous deux âgés de 40 ans, se sont dit chacun convaincus d'être élus dès le premier tour. 8 autres prétendants ne peuvent espérer que des miettes, car peu connus ou réputés, peu hostiles au pouvoir.
L'opposition togolaise a appelé à se réinventer après sa lourde défaite aux élections législatives du 29 avril. Tout en dénonçant une mascarade électorale, l'opposition togolaise n'a remporté que 5 sièges de députés sur les 113 à l'issue de ce scrutin. Selon la CENI, la participation a été de 61%, mais l'opposition crie à la fraude. Dernière phase des concertations nationales au Mali, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a lancé ce lundi à Bamako les discussions censées produire sans intervention étrangère des solutions pour sortir le pays de la crise. Davantage avec Alexandrine Ollognon.
Nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux sans intermédiaire pour dessiner une nouvelle architecture de la paix, a déclaré le colonel Assimi Goïta lors d'une cérémonie retransmise par la télévision nationale. Ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, précédé par une phase de consultation locale, doit s'achever le 10 mai. Il est boycotté par une grande partie de l'opposition. Pour le chef de l'État, le dialogue avait été entièrement inclusif, conformément à sa volonté de voir tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Les autorités présentent le dialogue comme se substituant à l'accord de paix d'Alger signé en 2015 avec les séparatistes du Nord. L'accord était considéré par les partenaires internationaux comme un facteur primordial de stabilisation, mais était perçu par une partie de l'opinion comme une tentative de partition imposée par l'étranger. Les indépendantistes ont repris les armes contre l'État central en 2023 et la junte a dénoncé l'accord.
7,5 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère au Burkina, au Mali et au Niger, selon International Rescue Committee. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'insécurité alimentaire a progressivement empiré ces 5 dernières années, alerte le vice-président régional de l'IRC pour l'Afrique de l'Ouest, Modou Diao, dans un communiqué publié ce lundi. L'ONG américaine a fait savoir que le phénomène pourrait s'aggraver dans ces 3 pays, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Nigeria entre les récoltes de juin à août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas a annoncé aujourd'hui avoir accepté la proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris pour la bande de Gaza. Le mouvement palestinien précise dans un communiqué que le chef de sa branche politique en exil, Ismaël Haniyeh, a informé de sa décision le premier ministre du Qatar et le chef des services de renseignement égyptien. Les détails de la dernière proposition formulée par les médiateurs ne sont pas encore connus. Israël n'a pas encore réagi à cette annonce. Le président Joe Biden a réitéré aujourd'hui sa position claire au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou contre toute offensive terrestre à Rafah, a indiqué la Maison-Blanche. Le point avec Nani Talani.
Joe Biden avait déjà déclaré au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en avril qu'une invasion de Rafah serait une erreur et Washington a clairement indiqué qu'il ne soutenait pas une offensive sans un plan crédible pour protéger les civils qui s'y abritent. Dans cet appel téléphonique, le chef du gouvernement israélien a aussi promis au président américain de maintenir ouvert Kerem Shalom, principal point de passage depuis Israël de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et visé dimanche par des roquettes tirées par le Hamas. Cet appel téléphonique intervient alors que le président américain reçoit à la Maison-Blanche lundi le roi Abdallah II de Jordanie, un allié clé. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé lundi inhumain l'ordre d'évacuation donné par Israël aux habitants de l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Dans un communiqué, le Hamas assure que l'offensive qu'Israël s'apprête à lancer sur Rafah ne prend pas en considération la catastrophe humanitaire en cours dans la bande de Gaza où le sort des captifs qui y sont retenus depuis leur enlèvement le 7 octobre dans le sud d'Israël.
Le président chinois Xi Jinping, arrivé en France dimanche pour une visite d'État de 2 jours, a assuré que le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existe pas, alors que les Européens s'alarment de l'afflux sur leur marché de produits chinois massivement subventionnés qui fausseraient la concurrence internationale. Le point avec Rosine Monizero.
L'industrie chinoise des nouvelles énergies permettait d'accroître l'offre mondiale et d'atténuer la pression de l'inflation mondiale, que ce soit du point de vue de l'avantage comparatif ou à la lumière de la demande mondiale, a plaidé Xi Jinping en présence de son homologue français Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. De son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé à des règles équitables pour tous dans les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine. L'avenir de notre continent dépendra très clairement aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine, a dit M. Macron. L'Union européenne considère officiellement la Chine comme un partenaire, mais aussi comme un concurrent et un rival systémique. La Chine a en outre été critiquée par les Occidentaux et notamment les Européens sur le dossier ukrainien. Le président français a indiqué que la coordination avec Pékin sur les crises majeures en Ukraine et au Moyen-Orient était absolument décisive.
La Russie a annoncé aujourd'hui la tenue prochaine d'exercices nucléaires près de l'Ukraine et a affirmé que ses forces pourraient frapper des cibles militaires britanniques en Ukraine et au-delà, disant réagir à des déclarations belliqueuses de dirigeants occidentaux. Ces menaces de Moscou interviennent à la veille de la cérémonie d'investiture au Kremlin de Vladimir Poutine qui entamera officiellement demain mardi un 5e mandat et 3 jours avant les célébrations du 9 mai sur la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie, élément central du récit patriotique du Kremlin. Le juge qui préside les débats au procès de Donald Trump à New York a de nouveau menacé aujourd'hui l'ex-président américain d'incarcération pour avoir violé son interdiction d'attaquer verbalement les témoins et les jurés. Le juge Juan Merchan lui a infligé une nouvelle amende de $1,000 pour avoir violé son ordre en faisant des commentaires publics sur le jury et la façon dont il a été sélectionné. Selon sa décision écrite, il a averti que de futures infractions seraient passibles d'incarcération. L'Université Columbia à New York, épicentre du mouvement pro-palestinien des campus américains, a annoncé aujourd'hui renoncer à sa grande cérémonie de remise de diplômes et privilégier des événements modestes et festifs après 3 semaines de colère condamnée par le président Joe Biden et réprimée par la police. L'université a été l'une des premières à se mobiliser au début de la guerre que conduit Israël contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Et puis, le présentateur et écrivain français Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français et de francophones dans le monde grâce à son émission Apostrophe est mort ce lundi dans la région parisienne à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille Cécile Pivot. Un livre à la main, sa paire de lunettes dans l'autre, Bernard Pivot avait également présenté l'émission Bouillon de culture et organisé à partir de 1985 les Dico d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Alexandrine Ollognon.
Plusieurs mines d'or exploitées par une société chinoise dans le nord du Niger ont été temporairement fermées vendredi après la mort de plusieurs dizaines d'animaux ayant bu des eaux rejetées par les puits d'exploitation. Selon le journal privé AIRINFO, repris par l'AFP, un rapport officiel confirme que la catastrophe a pour origine des produits chimiques utilisés dans les mines et qui représentent une menace sérieuse pour la faune et la nappe phréatique. Le président chinois Xi Jinping a assuré à Paris que le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existe pas, alors que les Européens s'alarment de l'afflux sur leur marché de produits chinois massivement subventionnés qui fausserait la concurrence internationale. Selon un communiqué de la diplomatie chinoise, Xi Jinping a expliqué à son homologue français Emmanuel Macron et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen que l'industrie chinoise des nouvelles énergies permettait d'accroître l'offre mondiale et d'atténuer la pression de l'inflation mondiale. Les marchés boursiers ont progressé ce lundi grâce à un regain d'optimisme quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année et à une saison de résultats positifs pour les entreprises. Wall Street a ouvert en hausse et les actions de la zone euro ont progressé dans l'après-midi après que Hong Kong et Shanghai ont clôturé dans le vert.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
On commence avec la Basketball Africa League. Le dernier groupe, la Conférence Sahara, a débuté ses matchs le week-end à Dakar au Sénégal.
Oui, quatre équipes en lice pour deux tickets qualificatifs directs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali au Rwanda. Les Nigérians de Rivers Hoopers, vainqueurs 86-82. Des Rwandais d'APR, Armée Patriotique Rwandaise, ont signé leur seconde victoire de suite dans le duel des vaincus de la première journée. Le club hôte, l'AS Douane, a battu les Tunisiens de l'US Monasti 76-59. Pas de match aujourd'hui, les rencontres reprennent demain mardi à la Dakar Arena.
Ici en NBA, Cleveland domine Orlando lors du match 7.
Porté par Donovan Mitchell, les Cavaliers se sont imposés à domicile face au Magic d'Orlando lors de l'ultime match de leur série de premier tour, remporté 106-94. Cleveland remporte ainsi la série 4-3. Le nouveau patron du club de l'Ohio s'appelle désormais Donovan Mitchell. Après ses 50 points lors du match 6 perdu à Orlando vendredi, Mitchell a compilé 36 points et 9 rebonds. En face, Paolo Banchero a confirmé toutes les promesses de sa première série de playoffs à 21 ans seulement, avec un nouveau match de grand 38 points, 16 rebonds, toutefois insuffisant. La tâche s'annonce très difficile pour Cleveland au prochain tour face à Boston. Meilleure équipe de la saison régulière, les Celtics ont franchi le premier tour face au Miami Heat 4-1 et attendent les Cavs pour une première confrontation dans le TD Garden dès demain mardi.
Athlétisme, le Botswana remporte le 4 x 400 mètres des relais mondiaux.
Les Botswanais ont enlevé cette épreuve chez les hommes en 2 minutes 59 secondes grâce à la performance de leur star Letsel Tebogo aux Bahamas. De leur côté, les Américains emmenés par leur sprinter vedette Noah Lyles ont remporté en 37 secondes 40 centièmes le 4 x 100 mètres de ces relais mondiaux qualificatifs pour les JO 2024. Les États-Unis ont devancé le Canada porté par le champion olympique du 200 mètres André De Grasse. Le relais 4 x 100 mètres féminin a aussi été remporté par les États-Unis qui se sont imposés en 41 secondes 85 centièmes devant les Françaises, deuxième, et la Grande-Bretagne, troisième. Au total, les États-Unis ont gagné 4 des 5 courses au programme aux Bahamas. Les relais mondiaux distribuaient 14 des 16 tickets pour les JO et 2 places par épreuve restent encore à décrocher sur la base des bilans entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2024.
Page de sport VOA Afrique signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Élection présidentielle au Tchad, un peu plus de 8 millions de Tchadiens en âge de voter sont allés aux urnes ce lundi pour départager 10 candidats en lice qui briguent la magistrature suprême. Une élection qui devrait aboutir au retour à l'ordre constitutionnel après la mort du maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021. Le scrutin se déroule dans le calme malgré quelques irrégularités et tensions. Les forces de sécurité sont massivement déployées à travers le pays. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Mahamat Idriss Déby Itno et Dr Succès Masra, deux principaux candidats favoris, ont voté tôt ce lundi à la même heure dans leurs QG respectifs. C'est pour donner un exemple aux citoyens qui hésitent à accomplir leur devoir civique. Après avoir voté, le candidat de la coalition Tchad Unie, Mahamat Idriss Déby Itno, a déclaré à VOA Afrique qu'il est animé par un double sentiment.
Celui d'avoir accompli mon droit civique, mais surtout celui d'avoir réalisé l'engagement que j'ai pris devant Dieu et le peuple tchadien, celui d'organiser dans le délai accordé les élections qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel. Il revient maintenant au peuple tchadien pour choisir leur président.
Docteur Succès Masra, lui, se réjouit du fait qu'un compromis a été trouvé avec les responsables des institutions chargées d'organiser cette élection au sujet des électeurs qui auront des difficultés à voter.
Je note avec beaucoup d'enthousiasme que pour la première fois, là, on vote. Internet n'est pas coupé, ce qui est déjà un bon signe. Ceux qui ont eu leur nom inscrit sur la liste électorale, ils vont pouvoir avoir l'occasion, y compris de voter, même s'ils n'ont pas leur carte électeur. L'important, c'est d'avoir pris leur nom sur la liste électorale. Et même s'ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux, ils peuvent, grâce à un témoignage de deux personnes, pouvoir voter. C'est ce que je viens de dire.
Mais la situation se complique sur le terrain. Beaucoup d'électeurs, bien qu'étant recensés normalement, font le tour dans les bureaux de vote en vain pour accomplir leurs droits citoyens.
Moi, c'est depuis 6h moins que je suis ici. Et même sur les fiches, là, je n'ai pas mon nom. Et je m'étais fait filmer ici, j'ai ma carte avec moi.
Nous sommes arrivés sur le terrain, là où on a fait la carte, et finalement, on ne voit pas nos noms sur la liste. On nous balance de gauche à droite. Voilà ma carte, il n'y a pas mon nom sur la liste.
Depuis 6h, on est là sur place. Le président de vote et les urnes même là, tout n'est pas mis sur place.
Je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons ici. Beaucoup de gens sont passés pour voter, mais ils n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas trouvé une installation adéquate.
On a nos cartes, mais maintenant, ils ont dispersé nos noms. On est tenté de parcourir des kilomètres dans la ville de N'Djamena pour savoir chercher là où on devait avoir nos noms.
Quatre organisations de la société civile tchadienne qui se mettent en consortium pour former plus de 2000 observateurs nationaux n'ont pas eu leur accréditation. Elles dénoncent le refus délibéré de l'ANCHE de leur accréditer pour l'observation de cette élection sous prétexte qu'elles ont soumis la demande hors délai. Majitel Sem Severin, l'un des membres de cette plateforme.
Aucune raison ne justifiant ce refus ne leur a été notifié. Pourtant, elle comptait déployer 2900 observateurs citoyens déjà formés. Une telle situation constitue une entrave au contrôle citoyen et de la crédibilité, l'intégrité du scrutin.
Les résultats provisoires ne seront pas connus avant 2 semaines. André Kodumajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Deux avions cargo ont atterri au Niger ce week-end, transportant de nouveaux instructeurs de l'armée russe ainsi que du matériel militaire. Le Pentagone a également indiqué que des soldats russes étaient installés dans une base des forces aériennes nigériennes abritant des troupes américaines près de l'aéroport de Niamey. Pour une analyse de ces derniers développements au Niger, Jacques Aristide s'est entretenu avec le vice-amiral à la retraite français Patrick Chevalereau, consultant international sur les questions de défense et de sécurité.
Je crois qu'il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe actuellement au Niger, avec une implication russe qui est effectivement l'héritage de l'implication de Wagner, qui a disparu ou qui s'était plus ou moins effondré avec la mort de son chef Prigogine, qui avait beaucoup impliqué son organisation dans les États africains. Je ne sais pas s'il s'agit d'un renfort contre la lutte antiterroriste. Moi, ça me semble plutôt être une implication de Moscou en soutien de ce qu'on appelle la sécurité politique d'un certain nombre de régimes en place. C'est actuellement le cas en République centrafricaine. C'est maintenant le cas au Niger. Et l'implication de Moscou, pourvoyeur de sécurité politique pour les régimes issus du coup d'État au Niger, eh bien, c'est quelque chose qui est assez logique, avec des contreparties naturellement dont Moscou bénéficie, accès aux matières premières notamment. Voilà. Et je pense que la lutte antiterroriste passe tout à fait au second plan pour Moscou, ça n'est pas son objectif. Son objectif, c'est l'accès à un certain nombre de ressources, et puis également une sorte d'escalade horizontale dans le conflit global dans lequel Moscou est engagé avec l'Occident. Une escalade horizontale, ça veut dire aussi une escalade géographique dans des zones qui sont des zones d'intérêt pour un certain nombre de pays occidentaux, en l'occurrence au Sahel, la France, les États-Unis.
Mi-avril, Washington a accepté de retirer du Niger ses plus de 1000 soldats. Quelles vont être les conséquences de ce départ annoncé sur les opérations antiterroristes menées par les troupes américaines dans la région ?
J'ai tendance à penser que les conséquences vont être dommageables parce que l'implication, l'implantation des troupes américaines était un véritable plus pour la lutte antiterroriste, notamment à partir de la base d'Agadez dans le nord du Niger. Donc ça, c'est quelque chose qui va disparaître. Je doute fortement que les Russes substituent des moyens analogues en quantité et en qualité à ceux des Américains. Donc on va avoir un angle mort, je pense, qui va se développer dans la lutte antiterroriste, qui, encore une fois, n'est pas, à mon avis, la priorité première de Moscou au Niger.
Le Pentagone a confirmé la présence de militaires russes dans la base aérienne de Niamey, abritant également des troupes américaines. Pour Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, le déploiement n'a pas de problème.
Comme ils l'ont annoncé, vraisemblablement, y compris de Niamey, on est donc dans une situation de cohabitation entre les forces russes et les forces américaines. Tout le monde s'observe vraisemblablement. Maintenant, les États-Unis et la Russie ne sont pas en guerre, même si les tensions sont fortes et à bien des égards, des tensions qui sont même supérieures à la période de la guerre froide. Donc on a une situation, je pense, qui est sous contrôle. Les deux protagonistes savent bien qu'ils ne peuvent pas s'engager dans des hostilités ouvertes. Là, pour le coup, on aurait une véritable escalade. Donc je pense que la situation est gérée. C'est pas un problème phénoménal que d'avoir cette cohabitation sur la base de Niamey. Mais c'est à surveiller, bien sûr.
Patrick Chevalereau, vice-président de l'Institut Open Diplomacy et chercheur associé à l'IRIS en France.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Malgré le démantèlement d'un grand nombre de leurs campements sur les campus universitaires, les manifestants pro-palestiniens aux États-Unis ne décollèrent pas. Si les manifestations se poursuivent, certains analystes estiment qu'elles pourraient avoir un impact sur l'élection présidentielle de novembre. Véronica Balderas-Iglesias explique, le récit est de Gabi Dorsil.
Plus de 20 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par la police et ont vu leur campement démantelé samedi à l'Université de Virginie. Mais des scènes comme celle-ci ne semblent pas décourager les manifestants, dont beaucoup ont déjà porté leurs revendications à leur cérémonie de remise de diplôme dans des États comme le Michigan. Après l'évacuation par la police d'un bâtiment occupé par les manifestants à l'Université de Columbia, le maire de New York, Eric Adams, est apparu dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Il a déclaré que les forces de l'ordre veilleraient à ce que le calme règne pendant les cérémonies de remise de diplôme.
Nous ferons notre travail et si l'institution décide de décerner des diplômes aux étudiants, pour qu'ils célèbrent une belle expérience en famille, nous veillerons à ce que cela se passe paisiblement.
Le président Joe Biden s'est adressé aux manifestants jeudi et le coprésident de sa campagne de réélection, Mitch Landrieu, était l'invité dimanche de l'émission State of the Union sur CNN, soulignant le message principal de Biden.
Tout le monde a le droit de protester, mais ils doivent le faire pacifiquement. S'ils le protestent violemment, cela doit cesser. Il n'y a pas de place pour cela. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme. Il n'y a pas de place pour l'islamophobie.
De son côté, le candidat républicain pressenti à la présidence, Donald Trump, a renouvelé dimanche ses critiques à l'égard des manifestations pro-palestiniennes. Il a posté sur sa plateforme de médias sociaux Truth que Biden est, je cite, « la raison principale de toutes ces terribles manifestations ». C'est une stratégie politique que Trump utilise pour soutenir sa propre candidature à la réélection, explique le politologue Michael Chwagot de l'Université du Michigan. Nous l'avons joint via Skype.
Il veut que les manifestants, y compris les étudiants, soient arrêtés et expulsés du campus, mais il ne comprend pas ou ne veut pas reconnaître que le président a peu de contrôle direct sur tout cela.
Si elles se poursuivent, les manifestations pourraient avoir un impact sur les élections de novembre, selon le professeur Chwagot.
Je pense que les manifestations favorisent généralement Donald Trump parce qu'une grande partie de ses partisans s'y opposent et ils seraient plus susceptibles de se rendre aux urnes alors que, d'un autre côté, elle pourrait faire baisser le taux de participation des jeunes, principalement démocrates, qui soutiendraient Joe Biden.
Les deux candidats restent sous les feux de l'actualité cette semaine. Biden, avec un discours bardi au musée de l'Holocauste, notamment sur la lutte contre l'antisémitisme, et Trump avec des comparutions à son procès pénal à New York et les préparatifs d'un nouveau meeting électoral dans le New Jersey le 11 mai.
Le paludisme endémique au Kenya continue de tuer des personnes, mais la production locale de médicaments signale des progrès. Le Kenya a enregistré environ 5 millions de cas de paludisme et plus de 12 000 décès signalés en 2022 selon l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des personnes concernées sont des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Les détails avec Blanche Sanon.
Dans un petit village de Migori, dans l'ouest du Kenya, le chagrin est vif dans la famille de Winnie Akini. Sa sœur Rosebella vient d'être enterrée, un des 5 décès dans cette famille attribué au paludisme. Winnie exprime son angoisse et sa douleur.
C'est incroyablement douloureux pour nous. Le paludisme, une maladie traitable, a coûté la vie à 2 membres de la famille qui n'ont pas pu accéder à un traitement à temps. Comment nous pouvons vaincre le paludisme et mettre un terme à cette maladie et à son impact dévastateur?
Rose Bella, 31 ans, est tombée malade en décembre et a perdu sa grossesse de 5 mois avant de succomber au paludisme. Son fils de 11 ans est le seul survivant de la famille. Winnie est désormais sa tutrice. Dans le service de l'hôpital de Kisumu, les patients atteints de paludisme sont alités. Wilson Otieno a été admis à l'hôpital à 3 reprises pour paludisme.
La plupart des établissements publics n'offrent pas exactement les médicaments nécessaires pour éliminer la maladie du parasite du paludisme, mais dans la plupart des cas, les gens choisissent de se rendre dans des établissements privés où ils obtiendront des médicaments plus rapides et de qualité.
Oswald Omondi, médecin à l'hôpital de Kisumu, souligne la frustration rencontrée tant par le personnel soignant que par les patients en raison de l'indisponibilité des médicaments et de leur coût élevé.
Il existe de nombreux cas où, en tant que professionnel de la santé, vous souhaiterez administrer le médicament de votre choix en première intention, à savoir la tesonate, mais en raison de son indisponibilité ou de son prix tout simplement trop coûteux pour la population la plupart du temps.
L'accès au traitement reste un défi, les hôpitaux publics étant souvent aux prises avec des pénuries de médicaments et les établissements privés exigeant des tarifs exorbitants pour les soins, explique Michael Mungoma, doyen de l'école de pharmacie de l'Université Mount Kenya.
Si nous investissons davantage dans la fabrication de médicaments et des médicaments essentiels, y compris les antipaludiques, là où se situe le problème, alors nous serons probablement plus aptes à le résoudre au lieu de dépendre massivement de l'importation de médicaments.
Le Kenya continue de lutter contre le paludisme avec des méthodes traditionnelles telles que la distribution de moustiquaires traités avec des insecticides, la pulvérisation des zones de reproduction et la promotion d'un diagnostic et d'un traitement rapide. Certains progrès ont été réalisés dans la fabrication locale de médicaments essentiels.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.